France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Les États-Unis ont beau demeurer la première puissance du monde, le système électoral qui, mardi prochain, va régir l'élection du prochain président d'une bonne partie du Congrès et de la plupart des postes électifs du pays n'a guère changé depuis la fin du XVIIIe siècle. Chacun des 50 États a ses propres règles, son propre calendrier de dépouillement des suffrages et d'annonce des résultats. Cette fois, les ravages de la Covid-19 ajoutent un climat politique et social hystérisé à une sorte de guerre culturelle qui divise un pays peu porté d'ordinaire aux passions politiques à la française. On s'attend à un taux de participation record. Plus de 80 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance pour éviter les risques d'embrouilles diverses et d'une longue attente mardi devant les bureaux de vote. Le président sortant a dénoncé à l'avance, je le cite, « l'élection la plus truquée de l'histoire » au cas, bien entendu, où il la perdrait. Ce qui va compter, cette fois encore, ce n'est pas le vote populaire, mais bien la couleur politique de ceux qu'on appelle les grands électeurs, dont le nombre diffère selon le poids démographique des États fédérés. On se souvient qu'il y a 4 ans, Hillary Clinton obtenait 3 millions de voix d'avance sur son rival républicain, et c'est pourtant Donald Trump qui s'est installé à la Maison-Blanche. Qui sont donc ces États qui vont faire basculer l'élection mardi prochain? Sont-ils les mêmes qu'en 2016, ces États du Midwest où la pandémie est repartie de plus belle? Pennsylvanie, Wisconsin, mais aussi le Michigan et la Floride, où le vote hispanique sera déterminant. Au-delà de ces cas précis, quels sont au niveau national les facteurs communs, démographiques, économiques, culturels, qui décideront des nouveaux équilibres politiques du pays? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Je suis ravie d'accueillir par téléphone, bien sûr, Frédéric Davis. Fred, vous êtes avocat au barreau de New York et de Paris, ancien procureur fédéral, et vous enseignez à la faculté de droit de l'Université Columbia. Professeur aussi à Columbia, mais professeur d'économie cette fois, Pierre-André Chiappori, merci d'être avec nous par téléphone. Et nous avons aussi Olivier Richomme, bonjour, maître de conférence à l'université Lyon 2 en civilisation américaine. Laurence, je commence avec vous. Quels sont les derniers chiffres des sondages nationaux entre les deux candidats?
Eh bien, les derniers chiffres, ils sont de 52% d'intention de vote pour Biden et 43% d'intention de vote pour Donald Trump. Donc un écart quand même considérable de 9 points.
Un écart de 9 points, mais on a appris douloureusement pour certains d'entre nous, à commencer par moi, il y a 4 ans, à quel point il faut se méfier de ces sondages nationaux. Est-ce que les instituts de sondage ont affiné leur méthode pour éviter le ridicule
Oui, il y a deux choses. Ils ont d'abord affiné leur méthode, la méthodologie des sondages. Il y a des livres et des livres entiers qui peuvent être écrits dessus. Ils ont notamment affiné la manière dont ils passent leur coup de fil, parce que les sondages sont souvent faits par téléphone. Et les anciens instituts, enfin dans l'ancien temps, les instituts appelaient les gens sur leur ligne fixe. Oui. Aujourd'hui, ils appellent les gens sur leur ligne portable, leur 06, on dirait en France. Or, c'est pas exactement les mêmes populations et on peut moins contrôler avec un portable si la personne habite bien là où elle dit qu'elle habite. Et donc, il y a eu toute une phase d'affinage, d'adaptation des instituts de sondage à cette nouvelle réalité. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, c'est évidemment le vote par anticipation, le vote par correspondance. Plus de 80 millions d'Américains.
Oui, alors il y a deux choses. Il y a le fait que les gens ont voté par correspondance, effectivement, dans des proportions incroyable cette année à cause de la Covid-19, pour ne pas avoir à aller attraper potentiellement le virus dans le bureau de vote. Mais il y a aussi énormément de votes à l'avance qui se fait dans les bureaux de vote. Quand on regarde à la télé ces longues files d'attente de gens qui attendent pour voter, ce ne sont pas des gens qui votent par correspondance, ce sont des gens qui sont en train de faire la queue pour voter dans le bureau de vote. parce que ils craignent, parce que le président et divers médias l'annoncent depuis des semaines, ils craignent des désordres, voire des violences mardi. Mardi 3 novembre, qui est le jour du vote proprement dit, eh bien, beaucoup de personnes ont préféré se déplacer pour aller voter à l'avance et éviter de prendre des risques.
Il faut souligner que le mardi, c'est évidemment un jour travaillé, ce n'est pas un jour férié, ce qui, traditionnellement, avait aussi pour but d'handicaper notamment des Afro-Américains, travailleurs pauvres, obligés de pointer et qui ne pouvaient pas attendre, encore une fois, 8 heures...
Absolument, et c'est pour eux que le vote à l'avance d'une part et le vote par correspondance a été mis en place il y a de longues années, mais alors cette fois-ci pour le cycle 2020 avec énormément d'importance.
Venons-en à ces États qu'il va falloir surveiller donc pour nous dans la nuit qui promet d'être longue, la nuit de mardi à mercredi. Est-ce qu'il y a de nouveaux États clés par rapport à 2016 ?
Oui, il y a des États qui sont en train de quitter leur solide ancrage, notamment républicain, je pense à la Géorgie par exemple, et qui basculent dans une zone qu'on appelle violette, entre rouge et bleu, les deux couleurs de
Alors il faut rappeler que le rouge est la couleur des
conservateurs républicains, et le bleu, celle des démocrates. Ce sont des couleurs qui ont été fixées quand leur positionnement politique était inversé au 19e siècle. Mais enfin, ouais. Ils ont gardé leur couleur de l'époque. Bref, la Géorgie, parce que Atlanta se rajeunit et accueille une population de plus en plus diplômée, devient de plus en plus démocrate et donc est devenu un État flottant en réalité. C'est pareil pour d'autres États.
Comme l'Arizona par exemple, parce qu'il y a une émigration venue de Californie qui est devenue un État beaucoup trop cher et donc là aussi...
Il y a ça, et puis les Latinos qui sont de plus en plus actifs dans le vote. Ils sont d'une part plus nombreux mais aussi ils s'abstiennent de moins en moins.
Allons à New York vous rejoindre, Fred Davis. Expliquez-nous ce qui est toujours un mystère pour nous autres en France, qui sommes habitués au suffrage universel direct. Qu'est-ce que c'est que ce système des grands électeurs ? Qui sont-ils et pourquoi leur nombre diffère-t-il d'un État à l'autre ?
Bon, c'est une question d'histoire. Notre Constitution était à certaines époques très innovatrice. Le problème, ça date de la fin du 18e siècle. Alors, vous vous rappelez tous qu'on a gagné la guerre contre le roi anglais, donc on est devenu indépendant, mais on était à l'époque 13 États souverains. Et la Constitution peut être considérée un peu comme un traité entre 13 États indépendants qui se méfient un peu l'un de l'autre. Et ils ont fait deux grands compromis. Un, c'était l'esclavage, où ils ont décidé de ne pas décider, ça restait un problème jusqu'à la guerre de sécession. Et l'autre problème, c'était le bilan de pouvoir entre les grands États et les petits. Et à l'époque, l'idée d'élection directe et populaire n'était pas dans les mœurs, on n'en a pas non plus. Donc on avait l'idée que les États, en tant que tels, allaient choisir leurs électeurs et que le poids dans le collège ne sera pas totalement proportionnel à leur population. Donc, chaque État dans le Congrès a deux sénateurs. Les petits et les grands, tous les mêmes, ils ont deux sénateurs. Et c'est dans la maison des représentants qui est variable selon la population. Et le collège électoral consiste du nombre de sénateurs plus les autres. C'est-à-dire que Wyoming, par exemple, qui est l'État le moins peuplé, un électeur à Wyoming a beaucoup plus de poids, si vous voulez, qu'en Californie. Donc, l'autre problème, c'est que ça crée des cellules. Notamment, dans tous les États, sauf deux, c'est tout ou rien. Donc, vous avez parlé de 2016. En 2016, Mme Clinton avait massivement gagné New York et Californie, par exemple. Bien, elle gagne les deux États, tous les électeurs. Mais Trump, il a pu gagner d'autres États par 1 ou 2%, mais le résultat, c'est le même. Donc, ça explique pourquoi on peut avoir une victoire dans le vote populaire et quand même perdre le collège électoral.
Et donc, c'est
le cas du 18e siècle.
Oui, c'est...
On va voir si ça peut changer, mais ce n'est pas évident.
Alors, il y a un recensement, je crois, aux États-Unis tous les 10 ans pour être pour tenir compte, bien évidemment, d'une évolution démographique qui est rapide aux États-Unis, avec une urbanisation, avec des transferts de population. Il semble que Donald Trump ait obtenu l'interruption de ce recensement, et c'est à partir de ce recensement que l'année prochaine devront être recalculés les rapports entre les États. Fred ?
Oui, un peu à la marge. Oui, un peu à la marge dans le sens que tous les deux ans, comme vous dites, il y a ce recensement. Ce qu'on a vu dans ma vie, c'est qu'il y a une tendance vers le sud et l'ouest, dans le sens que New York a perdu 2 ou 3 votes dans le collège et d'autres États ont gagné 2 ou 3 tous les 10 ans. Mais donc ça peut changer, mais pas massivement.
Pierre-André Chiappori, vous enseignez l'économie. Est-ce qu'il y a, au-delà des états clés sur lesquels nous allons revenir plus en détail, bien sûr, est-ce qu'il y a des facteurs communs qui diffèrent cette élection 2020 de celle d'il y a 4 ans, en commençant bien sûr par l'élection présidentielle, mais il faut toujours se souvenir que cette élection est extrêmement complexe et vise une foultitude de postes électifs. Est-ce que l'évolution démographique, d'abord, va peser davantage ?
Alors, effectivement, il y a un certain nombre de différences, disons, socio-économico-démographiques entre cette élection et la précédente. En fait, ce qu'on voit, c'est l'aboutissement de tendances lourdes qui ont commencé depuis 20, voire même parfois 40 ans. La première tendance, c'est l'augmentation de l'éducation générale de la population. Il a toujours été important de faire des études, mais il est beaucoup plus important d'avoir une formation universitaire, disons bac plus 4, ce que les Américains appellent college et au-delà, maintenant que ce n'était le cas il y a une quarantaine d'années. Il y a une énorme demande de la part du secteur productif, à cause du progrès technique, à cause des délocalisations, etc., c'est un autre débat. D'ailleurs, cette évolution de l'éducation de la population va de pair avec des phénomènes d'urbanisation. Vous avez de plus en plus une concentration de création de richesses et de capital humain dans les grandes villes. Si vous regardez le pourcentage de la population qui a un diplôme bac plus 4 et au-delà, dans les années 70, il y avait une petite différence entre les zones rurales et les grandes villes, mais elle n'était pas énorme. Maintenant, ça va du simple au double, du simple au double et au-delà. Donc il y a cette espèce de tendance générale à une importance accrue du capital humain, une éducation supérieure de la population. C'est vrai partout, c'est vrai dans les États-Unis, c'est vrai aussi dans les États pivots. Il y a une évolution alors plus récente qui date de milieu des années 90, qui est une polarisation des votes en fonction de l'éducation. C'est-à-dire, si vous regardez, il y a des études qui ont été faites au niveau des comtés, c'est-à-dire des divisions administratives. Vous classez les comtés par éducation, donc il y en a où le niveau d'éducation moyen est plus élevé, d'autres où il est plus bas, et puis vous regardez le pourcentage, par exemple, de votes démocrates. Et dans les années, jusque dans les années 90, en moyenne aux États-Unis, il n'y a aucune différence. Les comtés éduqués votent comme les autres. Et dans certains états clés comme le Michigan ou la Pennsylvanie, en fait, les comtés les moins éduqués votent plus pour le Parti démocrate parce qu'il y a la tradition des blue collars, de la tradition ouvrière, etc. Et ça s'est complètement renversé à partir du milieu des années 90. On s'aperçoit que les comtés les plus éduqués votent de plus en plus démocrates et les comtés les moins éduqués votent de plus en plus républicains. Ce qui fait qu'on arrive à cette... Alors, c'est vrai partout, mais c'est vrai y compris dans le Michigan, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, etc. C'est un phénomène qui est général, mais va avoir une importance, notamment pour ces États-clés. La grosse transformation que je vois, c'est que le Parti républicain, le Great Old Party, comme disent les Américains, est en train progressivement de devenir le parti des Blancs n'ayant pas de diplôme universitaire. Ce qui aurait été complètement impensable il y a 30 ou 40 ans.
Et il faut bien reconnaître que c'est le génie politique de Donald Trump, de l'avoir compris quand il a fait campagne il y a 5 ans et que, contre toute attente, il a écrasé la douzaine de candidats républicains aux primaires de l'époque. Pierre-André, est-ce que ce divorce à la fois socio-culturel, économique bien sûr, et politique, s'accroît entre les régions urbanisées, les grandes métropoles, et les régions rurales?
Absolument. Alors d'abord, vous avez raison de souligner que quelque part, Trump est aussi un symptôme d'une évolution plus profonde. Et ce basculement vers le populisme, il n'a pas causé cette espèce de distorsion par éducation, il est plutôt la conséquence. Alors, la richesse, de plus en plus, se crée dans des grands centres urbains. Les gens éduqués se concentrent de plus en plus dans les grands centres urbains. Ce qui a été dit tout à l'heure sur la Géorgie est absolument typique. La Géorgie est un État du Sud, c'est un État plutôt traditionnel, c'est un État qui était traditionnellement républicain. Mais Atlanta, c'est le type même de la ville moderne qui croît très vite et qui attire de plus en plus des gens diplômés. Et ça donne un électorat qui est majoritairement démocrate. Mais c'est vrai aussi, prenez un État comme la Pennsylvanie. Mmh. La Pennsylvanie, en fait, c'est un État profondément hétérogène dans lequel il y a deux grandes villes, Philadelphie et Pittsburgh. Et puis entre les deux, il y a une zone. Un de mes amis disait, il y a Pittsburgh, Philadelphie, et entre les deux, c'est l'Arkansas. C'est-à-dire, oui. Entre les deux, il y a une espèce de population rurale ou de petite ville très traditionnelle. C'est là qu'on trouvera, par exemple, des communautés Amish ou autres qui vivent comme au 19e siècle, etc. Donc, quelque part, l'élection va aussi se jouer sur les poids respectifs de ces différentes Amériques, si je puis dire.
Précisément, intéressons-nous à la Pennsylvanie avec vous, Olivier Richom. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2. La Pennsylvanie est un État clé, 20 grands électeurs, que Donald Trump a gagné en 2016 avec une marge d'à peu près 45 000 voix. C'est-à-dire très très peu à l'échelle de la population. Pourquoi est-ce que la Pennsylvanie a fait l'objet cette fois-ci de tant de meetings de la part des deux camps et de tant d'études à la fois des instituts de sondage bien sûr et des médias?
Oui, et on voit qu'on y a passé du temps et qu'on y a dépensé aussi beaucoup d'argent de part et d'autre. La Pennsylvanie fait partie du mur bleu qui s'est écroulé en 2016 avec le Michigan et le Wisconsin. Ces trois États ont été gagnés par moins d'1% d'écart, voire 0,2% même dans le Michigan. Et donc on va regarder ces États de très près. On voit du mouvement dans les sondages sur ces trois États, ce qui semble confirmer que la stratégie de nommer Joe Biden, qui paraîtrait plutôt neutre en tant que candidat, contrairement à Hillary Clinton qui avait peut-être tendance à focaliser des sentiments négatifs de la part d'une part de l'électorat. Semble avoir payé, vu qu'on voit mouvement dans la Pennsylvanie ou dans les sondages, lorsqu'on fait la moyenne, on est à plus 5, Michigan plus 8, Wisconsin plus 8, ce qui confirme la tendance nationale dont nous parlait Laurence Nardon juste avant, d'une vague bleue qui semble bénéficier à ce mur bleu qu'on connaissait dans les cycles électoraux précédents.
On a vu néanmoins que le décompte anticipé des voix qui ont déjà été exprimées par les électeurs, ce décompte anticipé a été refusé par la Chambre des représentants locale. Parce qu'il faut toujours aussi comprendre qu'à l'intérieur de chaque État, ce qui va se jouer aussi le 3 novembre, ce sont les rapports de force au sein des congrès locaux, donc Sénat, Chambre des représentants. Donc, est-ce que cette avance que Joe Biden semble avoir en Pennsylvanie au niveau de l'élection présidentielle se traduit aussi dans les rapports de force pour les postes locaux ?
Tout à fait. C'est là que la politique nationale rejoint la politique locale. En fait, on se rend compte que pour l'accès au vote, les Américains ne sont pas égaux et on va vers une Amérique où on a de plus en plus d'inégalités face à l'accès au vote. Dans les États dirigés par les démocrates, on fait tout pour faciliter l'accès au vote. Et dans les États dirigés par les républicains, on se rend compte que leur stratégie est de plutôt limitée. Vous parliez du vote anticipé. D'après les sondages qu'on a, on a un écart de 30 points. Les personnes qui votent par anticipation semblent plutôt des électeurs démocrates. Et donc, on voit pourquoi les gouvernements locaux dans les États donc dirigés par les républicains essayent de trouver des failles légales pour remettre en question ce vote anticipé, ce vote par correspondance, puisque leur stratégie est plutôt de limiter en fait ce genre de vote qui semble leur être défavorable. Et donc, cette année, avec la pandémie, on a, et notre collègue professeur de droit pourra en parler peut-être mieux que moi, on a une multiplication de procès, en tout cas oui, de tentatives de la part des républicains localement pour essayer de remettre en cause le résultat du scrutin, vu qu'on a un vote qui prend place pendant une pandémie historique et donc quelque chose de complètement nouveau.
Mais restons quand même en Pennsylvanie, où il y a évidemment une communauté afro-américaine très importante. Et on a vu à quel point la question raciale, hélas, reste... c'est une plaie ouverte. Il y a eu des incidents, des meurtres, une violence urbaine considérable de part et d'autre, autant du côté de Black Lives Matter que du côté policier, évidemment. Pennsylvanie, quelle peut être l'évolution du vote afro-américain? Est-ce qu'il reste traditionnellement démocrate?
Alors le vote afro-américain est complètement un vote presque à 100% démocrate. On est aux alentours de 90% dans la plupart des États, tant et si bien que d'ailleurs les Afro-Américains reprochent parfois au Parti démocrate de les oublier parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas aller voter pour le Parti républicain. Et donc ce qui se passe, et ce qui s'est passé par exemple en 2016, c'est que les Afro-Américains, une partie de l'électorat afro-américain est resté chez eux. Et donc en fait la question ce n'est pas de savoir si les Afro-Américains votent démocrate, c'est s'ils se déplacent place aux urnes ou non. Et donc là, c'est tout le travail de mobilisation de la campagne démocrate, d'essayer de que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales et ensuite aillent voter. En plein milieu d'une pandémie, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça, c'est le travail des campagnes. Et puis, on a le contexte culturel qui fait que peut-être on a une communauté afro-américaine très motivée pour aller voter cette année, notamment avec un rejet de Donald Trump. Cette élection est quand même un référendum sur la personne de Donald Trump, et puis toute la question qui vient se greffer autour de Black Lives Matter et la question de la réforme du système judiciaire dans son ensemble.
Les Latinos, à peu près un demi-million d'électeurs toujours en Pennsylvanie. Est-ce que c'est une communauté homogène ou au contraire, en fonction de l'origine de ces minorités hispaniques, leur vote diffère ou peut osciller démocrate ou républicain? Olivier Richard.
Alors, on a des données sur cette question et les choses sont un petit peu compliquées. Effectivement, on oublie de parler de la communauté latino quand on parle d'États comme la Pennsylvanie ou même la Géorgie dont on parlait juste avant. En fait, l'immigration latino s'est concentrée dans certains États, mais elle se diffuse et donc il représente 5-8% de l'électorat, ça dépend des États. Et donc, lorsqu'on a des élections qui se jouent à 10 000, 20 000, 50 000 votes pour la Pennsylvanie, par exemple, chaque communauté en fait peut peser énormément sur le moindre écart peut jouer. Et donc la communauté latino n'est pas homogène, mais en général on est quand même aux alentours de 70 voire 75%, peut-être 80 même localement dans certains États de vote latino pour le Parti démocrate. Donc on regarde cette communauté de très près. Une des raisons pour lesquelles on a un plancher, on va dire, une des raisons pour lesquelles lequel la communauté latino ne vote pas, n'est pas complètement acquis au vote démocrate, malgré le discours de Donald Trump. En particulier, c'est l'aspect religieux. On voit qu'on a une communauté qui est parfois très catholique ou alors très évangélique, et on voit que le vote catholique un peu dur ou le vote évangélique qui sont très satisfaits des nominations à la Cour suprême ou qui sont très à cheval sur la liberté de religion et de choisir son école et tout ça, font qu'ils sont plus enclins à voter pour le Parti républicain. Donc ce n'est pas un parti, ce n'est pas une communauté homogène, bien évidemment, mais c'est il y a quand même une tendance de fond. Les minorités non blanches ont quand même une forte tendance à voter pour le Parti démocrate. C'est un des facteurs les plus prédictifs. On parlait du niveau d'éducation. Je crois que le facteur le plus prédictif encore aux États-Unis aujourd'hui, ça reste la filiation ethno-raciale.
La filiation ethno-raciale, Laurence Nardon, et aussi la filiation religieuse. Et ça, c'est un facteur que nous avons tendance, en Europe et surtout en France, à minorer. S'agissant des États-Unis, on a vu en particulier le développement exponentiel des églises évangéliques, même s'il faut toujours se souvenir que les États-Unis, au départ, ont été créés par des sectes protestantes fuyant l'oppression en Irlande et en Angleterre à l'époque. Est-ce que ce facteur religieux va continuer de jouer en faveur de Donald Trump, même si Joe Biden, lui, qui est catholique, affiche une foi, j'allais dire réelle. Enfin, en tout cas, il est catholique pratiquant.
Oui, le facteur religieux pour l'élection de Trump cette année, enfin, comme depuis les années 80, il se joue entre ce qu'on appelle la droite chrétienne aux États-Unis et les autres dénominations religieuses, y compris protestantes ou catholiques, mais pas conservatrices, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle les protestants mainstream, alors on pourrait dire les protestants normaux, je propose cette traduction un peu pour aller vite, qui votent plutôt démocrate. Et puis, de l'autre côté, effectivement...
On va encore nous reprocher d'être outrageusement pro-démocrate, si vous les appelez normaux. Alors, disons traditionnels.
Non, ça va pas non plus. Appelons-les pas trop conservateurs. Alors,
voilà, d'accord.
Et de l'autre côté, effectivement, les évangéliques et les fondamentalistes, qui sont les deux courants du protestantisme très conservateur, et une certaine partie des catholiques, là aussi pas tous, qui sont politiquement extrêmement vindicatifs, et c'est pour eux que Trump a nommé ces trois fameux juges très conservateurs à la Cour suprême, Kavanaugh, Gorsuch et donc la dernière, Amy Coney Barrett.
Et donc, on aboutit d'ailleurs à ce paradoxe absolu, c'est qu'il y a maintenant non seulement 6 juges conservateurs nommés à vie sur 9, mais 6 catholiques.
Oui, mais c'est pas juste les conservateurs, parce qu'il y a une des progressistes, une des 3 progressistes qui reste à la Cour suprême, Sonia Sotomayor, est catholique. Donc c'est pas.
Néanmoins, il faut quand même rappeler la proportion de catholiques aux États-Unis, c'est quoi ?
C'est 20%.
20%.
Donc 20%, mais ils étaient beaucoup plus pro-Trump l'été dernier, 19 points de différence de catholiques qui s'apprêtaient à voter Trump dans les sondages, et c'est descendu, ils sont 52% à dire qu'ils vont voter Trump contre 44% des catholiques, quand même, c'est un très bon score, qui disent qu'ils vont voter Biden, parce que là, comme dans le protestantisme, il y a des courants différents.
Bien sûr.
Il y a des courants démocrates chez les catholiques aux États-Unis.
Et des courants républicains, bien sûr. Pierre-André Chiapori, avec vous, essayons de comprendre l'importance des facteurs économiques dans ce choix électoral de mardi. Et repassons, si vous le voulez bien, par la Pennsylvanie, qui est encore une fois un État très intéressant aussi sur le plan économique, ne serait-ce qu'à cause des revenus tirés du charbon traditionnellement. Et on se souvient des promesses de Donald Trump en 2015-2016, disant qu'il allait revivifier l'industrie du charbon.
Oui, parmi les nombreuses promesses qu'a fait Trump en 2016, il y avait celle de de terminer la guerre dont il prétendait que l'administration Obama avait lancée contre la production de charbon. Alors ça, c'est un message qui était passé très bien en Pennsylvanie. Historiquement, la Pennsylvanie, comme d'ailleurs un certain nombre d'États voisins, c'était des États dans lesquels la principale source d'énergie, c'était le charbon. Dans les années, même dans les années 2000, si vous regardez, par exemple, l'électricité qui est produite en Pennsylvanie, c'était pratiquement à 60% de l'électricité venue du charbon.
Et aujourd'hui, c'est le gaz de schiste.
Et alors, maintenant, le charbon est descendu à 17%. Alors, le charbon s'est effondré pour d'une part, les emplois dans le secteur charbonnier sont effondrés, de toute façon, à cause du progrès technique, et même pour la même quantité, il aurait fallu moins d'emplois. Mais surtout, le charbon a été complètement remplacé par le gaz de schiste. Et le gaz de schiste, alors, c'est pas du tout une politique. Alors, il se trouve que le gaz de schiste est moins polluant en termes de réchauffement global que le charbon. Bon, il pose d'autres problèmes écologiques, mais il se trouve que c'est beaucoup moins cher. Donc maintenant, la principale source d'énergie en Pennsylvanie, c'est le gaz de schiste. Alors d'ailleurs, c'est quelque chose que les républicains ont tenté d'exploiter lorsque Biden a parlé d'une progression générale, enfin d'une sortie progressive du pétrole et du gaz. Donc les républicains ont essayé d'agiter un drapeau rouge en disant Biden, d'ailleurs je pense que Trump l'a dit explicitement, Biden va interdire le gaz de schiste. Bon, il n'en est pas question, ça ne serait de toute façon pas possible économiquement. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est l'autre face de la Pennsylvanie. En même temps, le gaz de schiste pose des problèmes écologiques, en particulier des problèmes les pipelines qu'il faut construire pour transporter le gaz, etc. La Pennsylvanie est un état relativement vulnérable et très affecté par les questions de pollution. La qualité de l'air est très mauvaise, etc. Et donc, il y a en même temps en Pennsylvanie une prise de conscience écologique qui fait que ce discours de sortir progressivement du pétrole et du gaz, c'est un discours qui n'est pas sans rencontrer des échos dans la population. Évidemment, il y a plusieurs populations, mais il y a une certaine population à l'intérieur de la Pennsylvanie à qui ce discours parle bien.
Est-ce que le bilan économique de Donald Trump, qui est impressionnant jusqu'au moment où la pandémie s'est déclenchée aux États-Unis, donc fin février, ce virus chinois, comme il l'appelle, on a vu le chiffre spectaculaire du rebond de croissance aux États-Unis, un chiffre qui est sorti il y a quelques jours, plus 33,1%. Rebond de croissance, même si je crois la méthode de calcul n'est pas la même aux États-Unis que chez nous. Est-ce que cet argument du rebond, Donald Trump l'a utilisé jusqu'à hier dans ses derniers meetings électoraux, est-ce qu'il peut influencer le jour du vote, raffermir en quelque sorte son socle électoral?
Je pense que c'est un peu trop tard. D'abord, le 33%, c'est en taux annuel. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que sur un trimestre, le PNB est monté d'un peu moins de 7,5%. C'est tout à fait considérable. En même temps, sur la première moitié de l'année, le PNB avait chuté de plus de 10%. Donc, si vous regardez par rapport au 1er janvier 2020, on est quand même à 3,5% au-dessous du PIB de ce moment-là. Par ailleurs, ce rebond a été très largement porté par le très très fort soutien à l'économie qui a été mis en place juste au printemps, en particulier les aides aux ménages, les aides aux entreprises, etc. Et comme vous le savez, ce soutien n'a pas été renouvelé. La Chambre n'est pas arrivée à se mettre d'accord avec le Sénat sur un renouvellement. Donc il est possible que les prévisions que j'ai vues table sur une évolution au cours du dernier trimestre qui soit beaucoup moins forte, une croissance, mais une croissance de l'ordre de 1,5%, c'est-à-dire qu'on resterait au 31 décembre au-dessous, probablement d'un ou deux points, d'où on était le 31 décembre 2019.
Mais pour ces militants, pour les pro-Trump, disons, très actifs encore et qui le seront bien évidemment jusqu'à la dernière minute. Pour les indécis, il y en a encore quelques-uns, probablement moins nombreux que dans les élections précédentes, pour toutes les raisons qui ont été évoquées jusqu'ici. Est-ce que le grand dealmaker, l'homme d'affaires qui a tout réussi, même si on s'est aperçu avec la publication de ces dossiers fiscaux que, en fait, l'habileté de ces comptables recouvrait beaucoup de faillites. Mais néanmoins, la réputation de Trump, le fait qu'il n'ait pas payé d'impôts, qui est applaudi, il faut bien dire, par beaucoup de gens parmi ses partisans, est-ce que l'argument de son bilan économique continue de jouer en sa faveur ?
Alors, je pense que l'argument de son succès économique est dans une large mesure une illusion. Si vous regardez la croissance des États-Unis depuis la sortie de crise de 2008, vous avez un processus à peu près continu. Il n'y a pas d'effet Trump qui se serait traduit soit par une augmentation énorme du taux de croissance, soit par une augmentation énorme du nombre d'emplois. Ça, la croissance a continué, la création d'emplois a continué, mais pratiquement à la même vitesse que sous l'époque Obama. Et en fait, très au-dessous de ce que Trump lui-même avait prévu. Il avait annoncé des taux de croissance à 4%, etc. Ça ne s'est pas produit. D'autre part, je pense que c'est surtout une question d'image. Et l'image de Trump, pour parler comme Trump lui-même, c'était « winner ». Ouais. Vous savez, dans le monde de Trump, il y a les « winners » et les « losers », et lui est un « winner ». Et je pense qu'il y a eu un impact terrible sur lui, c'est sa gestion de la crise du Covid. Parce que là, il a montré... ce que par ailleurs on savait quand on se fatiguait à regarder un peu l'histoire de son empire industriel, mais ça les gens ne le faisaient pas. Mais là on s'est aperçu d'une carence complète en termes de leadership. Et ça, je pense que pour l'image de Trump comme capitaine d'industrie capable de vaincre n'importe quel ennemi et d'affronter n'importe quelle tempête, cette image en a énormément souffert.
Précisément, retournons à New York, Fred Davis. Fred, vous êtes toujours confiné à New York?
Oui. Oui, plus ou moins, on peut sortir. Les restos sont un peu ouverts, mais c'est pas normal.
Quel est, selon vous, l'impact de la Covid-19 sur cette campagne? On a vu Donald Trump continuer à encourager ses partisans à ne pas porter de masque. On a vu, par contraste, Joe Biden organiser des meetings électoraux tout à fait surréalistes, une version drive-in où ses partisans restaient dans leur voiture pour l'écouter, lui. Quel est, selon vous, l'effet de la pandémie sur l'image relative des deux candidats?
Bon, à mon avis, il y a deux choses. Une, c'est que, d'un point de vue de la gestion de la crise, tous ceux qui ne sont pas aveugles vont voir que Trump a été nul. Et pour moi, c'est une raison très politique, dans le sens que au mois de mars, c'était évident même pour lui qu'il y avait un grand problème avec cette crise. Et moi, je suis certain, ce qu'il s'est dit, c'est le suivant. Il a dit, bon, pour le moment, ce sont des États bleus qui ont des problèmes, l'État de New York et les autres avec les centres urbains. Et il a dit, pourquoi prendre responsabilité quand je peux dire que c'est le problème des gouverneurs démocrates? Donc, à mon avis, c'est un avis, mais partagé par d'autres, il a fait un choix politique de quasiment rien faire. Maintenant, c'est différent, parce que hier, par exemple, il y a eu une liste des États les plus affectés par l'épidémie, 14 qui ont des chiffres étonnants, et chacun, c'est un État qui avait voté Trump, parce que maintenant le pandémique est entré dans les États ruraux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a bien réagi? Je crois que ça, c'est un point sur lequel Biden s'est bien exprimé. C'est une absence de leadership, comme on dit. L'autre question, c'est quel est l'impact sur la campagne et le vote le mardi. Je crois que Biden a assez bien fait dans le sens qu'il est, il est consistant, il est modéré, il n'a pas été atteint par ce problème. Il s'est bien présenté. C'est un peu bizarre dans le sens que quand vous dites qu'il n'est pas vu physiquement par toute la foule. Et quand même, il était stable, consistant. Il part d'une la même voie tous les jours. Et on va voir. Et puis, mardi, on va voir s'il y a de longues queues pour pour le scrutin. Est-ce que les gens vont oser se mettre à côté l'un à l'autre? Ça, c'est toujours un problème. Et puis, il y a le problème du vote par le courrier.
Une question encore, Fred. Est-ce que dans les sondages, dans les États pivots, encore une fois, et dans ces bastions républicains, que Trump a gagné soit à la marge, soit largement la dernière fois, est-ce que la pandémie a fragilisé ce socle électoral, notamment au niveau des femmes et des personnes âgées?
Le problème pour moi, c'est que beaucoup de gens voient ce qu'ils veulent voir, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, pour des raisons dont on a parlé, un problème de l'économie et autres, veulent voir un héros dans Trump. Donc eux, ils disent, bon, il a bien fait. Moi, j'ai vu des sondages où les gens disent des choses, pour moi, incompréhensibles, comme il a bien géré le problème. Et d'autres gens disent non. À mon avis, ça donne un avantage à Biden, dans le sens que Trump, il y a des gens, comme vous dites, surtout les vieux, qui se disent, bon, est-ce que je suis protégé, moi? Est-ce que j'ai accès aux soins médicaux dont je pourrais avoir besoin? Et c'est cette sorte de question qui fragilise un peu les groupes qui avaient voté Trump en 2016.
Olivier Richomme, partons, grâce à vous et avec vous, en Floride. Le Sunshine State apparaît toujours, tous les quatre ans, comme un État décisif. On se souvient évidemment de ce qui s'est passé en 2000, quand Al Gore, le démocrate, affrontait George W. Bush, le républicain, et qu'il a fallu remonter jusqu'à la Cour suprême à Washington, qui a décidé d'arrêter le recomptage des votes. Et à ce moment-là, il faut aussi rappeler que le gouverneur de Floride n'était autre que le frère cadet de W. Bush. Est-ce que cette année, la Floride va jouer un rôle aussi décisif?
Alors, la Floride joue toujours un rôle décisif puisque c'est le quatrième État le plus peuplé et c'est le seul des quatre grands États qui soit vraiment indécis. Californie, New York seront démocrates, Texas, républicains, et les 29 grands électeurs de la Floride sont prêts à être gagnés par n'importe quel candidat. La Floride est un problème pour les démocrates. On se rend compte qu'on a en fait peu d'amplitude. Malgré la large victoire, la vague bleue de 2008, Obama l'a gagné de 200 000 voix. Ensuite, en 2012, 100 000 voix d'avance. Et puis en 2016, Trump qui gagne de 100 000 voix d'avance. Et donc, on voit qu'on oscille entre 100 000, 200 000. C'est un État qui réussit pas aux démocrates et qui reste un problème cette année. Si on avait un mouvement dans les sondages, comme on le voit dans les autres États, on a un mouvement national et puis on a un mouvement 7, 8, voire plus 7, 8 points dans certains États, on serait un peu plus rassuré du côté démocrate. Le fait que la Floride ne bouge pas dans les sondages est un peu inquiétant pour les démocrates, car les républicains ont absolument besoin de la Floride pour gagner l'élection.
Pour le moment, pardon, je vous interromps, les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. À peu près.
Voilà, on est au coude à coude, comme dans l'Ohio, sauf que dans l'Ohio, Trump l'avait gagné de 8 points. Et donc là, on retrouve nos fameux 8 points qu'on voit un peu partout, sauf en Floride. Et en Floride, on a en plus des données démographiques, on a 17% de la population du corps électoral qui est composé de Latinos et 13% qui est composé d'Africains-Américains. Et donc on a 30% de l'électorat qui est tout à fait dans la coalition démocrate qui l'a réussi si bien dans d'autres États. Donc on a une diversité ethno-raciale qui suggérerait une victoire peut-être un peu plus large. Et en fait, on a un vote blanc. Alors on parlait tout à l'heure de la Floride, de la Pennsylvanie avec entre Pittsburgh et Philadelphie, c'est l'Alabama. Je pense qu'on peut faire un peu la même analogie en Floride qui reste en fait un État du Sud. On a une population blanche. On retrouve des écarts très forts. En 2016, on avait plus de 30 points d'écart en faveur des républicains dans cette communauté blanche, plutôt âgée, donc retraitée. Et puis, on a toujours la question aussi du vote latino en Floride, qui est un peu plus conservateur qu'ailleurs. Traditionnellement, la communauté latino était composée de Cubains, donc ça change un peu, ça évolue un peu. Maintenant, on a un tiers de Cubains, un tiers de Mexicains américains, et puis un tiers d'autres latinos, principalement portoricains, dominicains.
Et Venezuela,
la nouvelle génération.
Et de gens venus du Venezuela, ce qui a aussi une connotation particulière.
Récemment, effectivement, ceux qui ont pu partir du Venezuela, mais je ne sais pas s'ils se sont inscrits sur les listes électorales. On manque un petit peu de données encore à ce niveau-là. Mais traditionnellement, les Cubains étaient proches du Parti républicain à cause de la question de Castro, bien sûr, et de l'embargo. Et puis, les nouvelles générations semblent évoluer et se désintéresser de la question de Castro, et donc on a potentiellement un électorat latino qui devrait se rapprocher un peu plus de l'électorat démocrate, mais ça ne se traduit pas encore électoralement en Floride. On perd régulièrement les sièges de sénateurs, on perd régulièrement les sièges de gouverneurs, et les sondages nous indiquent que ça risque d'être encore sur le fil du rasoir en Floride cette année.
Hillary Clinton, en 2016, avait conquis une bonne partie de ce vote latino, mais d'après les sondages, ce n'est pas le cas de Joe Biden. Pourquoi ?
Ah, pourquoi ? Ça, c'est la question à 100 000 dollars que tout le monde aimerait bien savoir. C'est très difficile de sonder la communauté latino. Beaucoup sont mineurs, ne votent pas. Beaucoup ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est une communauté qui est un peu moins politisée traditionnellement, à part les Cubains de Floride qui ont gravi les échelons de la politique en Floride et qui donc, du coup, contrôlent un peu l'État. Très difficile d'y voir clair sur cette situation. Mmh. Je ne saurais pas vous dire pourquoi Joe Biden, dans certains sondages, semble. On y verra plus clair lorsqu'on aura bien sûr les résultats, oui. Et puis les résultats détaillés état par état, et qu'on aura aussi l'impact de la pandémie dans un état avec une population quand même assez âgée. On peut imaginer que tous ces facteurs rentrent en compte en Floride, ce qui fait qu'on a une vision quand même assez brouillée de la situation en Floride. Les prédictions sont très, très difficiles.
Un mot encore, Olivier Richomme, des Afro-Américains. Les autorités républicaines, le gouverneur républicain de Floride a dû autoriser les anciens condamnés de droit commun à récupérer un droit de vote, mais à condition qu'ils paient le montant de leurs amendes. Ce qui est évidemment une manière de les empêcher de récupérer ce droit de vote, mais on a vu le milliardaire Michael Bloomberg et aussi un grand basketteur LeBron James offrir beaucoup d'argent à ces gens pour qu'ils puissent récupérer le droit de vote. Est-ce que c'est une manière de mobiliser davantage en Floride toujours cette communauté afro-américaine ?
Oui, tout à fait. C'est une question très intéressante. En effet, on a une longue histoire, dans le Sud en particulier, de personnes qui perdent leur droit de vote suite à une condamnation. Et ceci a un impact plus important sur certaines communautés. Donc en 2018, on a eu un mouvement avec un référendum. Et on a un référendum qui est passé en Floride qui essayait de rendre ce droit de vote aux anciens condamnés. Et là, on parle de potentiellement 1,4 million de nouveaux électeurs potentiels, parce qu'en Floride, on a mis beaucoup de personnes en prison. Et donc, on a un dixième de l'électorat de la Floride qui est impacté, et 20% de l'électorat afro-américain. Donc, on voit qu'on a une disproportion vis-à-vis de l'électorat afro-américain qui vote très majoritairement pour le Parti démocrate. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle la Floride ne réussit pas beaucoup aux démocrates, c'est qu'on a ces lois et ces mesures qui sont soutenues par les républicains, qui en fait empêchent une partie des citoyens de voter. Et donc on a cette évolution, on a eu ce référendum, et ensuite on a eu les républicains qui contrôlent l'État, qui se sont empressés de passer des mesures, d'interpréter, on va dire, ce référendum dans le détail, en disant il faut absolument avoir cette acquitté de ces amendes ou les différents frais, sinon on risquait, si on s'inscrivait sur les listes électorales, on risquait de nouveau la prison. Et donc on a un effet tout à fait on a fait peur à cet électorat potentiel, et donc l'impact de ce référendum risque d'être beaucoup moins important, mais ça vient dans un contexte de Black Lives Matter, ça vient dans un contexte de débat sur la réforme du système judiciaire, et donc tout ça c'est lié, ces mesures qui refusent le droit de vote aux anciens condamnés ont un impact disproportionné, en particulier sur les hommes afro-américains et sur les hommes latinos, et donc ça peut servir effectivement d'argument pour motiver à aller s'inscrire sur la liste électorale. On a essayé de faire de la levée de fonds pour leur payer leurs amendes et leurs frais divers, mais ça reste très compliqué, ça reste du cas par cas, ça reste de la politique très 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 locale, et donc c'est là qu'on voit que le national est impacté vraiment par ce qui se passe très localement.
Laurence Nardon, aujourd'hui samedi, Barack Obama et Joe Biden vont tenir un meeting commun dans le Michigan, qui est un autre état pivot important que Donald Trump avait gagné en 2016 avec une différence de 0,2% des voix. C'est aussi un état dont la gouverneure est démocrate, Gretchen Whitmer. Et on avait découvert il y a une dizaine de jours qu'il y avait un projet de la kidnapper fomenté par un mouvement d'extrême droite. Le Michigan est aussi l'un de ces États où va se jouer la Maison-Blanche.
Oui, si vous voulez, les démocrates cette année ont eu le choix entre plusieurs stratégies, enfin pas forcément exclusives les unes des autres d'ailleurs. Hein. L'une de ces stratégies, c'était l'idée de reconquérir ces fameux États désindustrialisés, donc dont le Michigan, mais aussi le Wisconsin et partiellement la Pennsylvanie. Et donc le personnage de Joe Biden était excellent pour ça, parce que c'est Joe qui a cette image de gars sympa et abordable, qui vient directement des années 50 et qui est cette image de old white male qui marche bien avec l'électorat précédemment démocrate, classe ouvrière de ces États. Et donc oui, là, il a très largement cherché à faire revenir ces États à lui. L'autre stratégie, c'était d'essayer de conquérir les États du Sud, comme l'Arizona, faire des avancées dans le Texas, etc. Et puis de la Floride, bien évidemment. Il semble que le Parti démocrate ait essayé de jouer sur les deux tableaux. On verra ce que ça donne. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir à ce que disait de manière extrêmement intéressante et juste Olivier Richaume tout à l'heure sur le vote des Afro-Américains et des Latinos. Je voudrais attirer votre attention, l'attention des auditeurs, sur un article que j'ai lu pour préparer cette émission hier dans le New York Times. Un article de Nate Cohn qui étudie des sondages récents, qui dit que de manière extrêmement étonnante, Joe Biden a très bien gagné le vote des blancs pro-Trump de 2016, notamment celui des blancs peu diplômés, qui en fait sont... Enfin,
qui avaient créé la surprise.
Exactement, les blancs diplômés ont voté démocrate, mais les blancs peu diplômés se sont marginalement rapprochés de Biden, même si on n'y croyait pas, parce qu'ils sont dégoûtés, sans doute, par le langage très dur de Trump. Et en revanche, on voit qu'à la marge, l'électorat latino et afro-américains, dans des sondages très précis sur les indécis qui restent au sein de l'électorat afro-américain notamment, les hommes, en fait, sont de manière plus qu'on ne pensait favorables à un vote Trump parce qu'ils sont séduits par son... alors ça, c'est des stéréotypes, évidemment, mais enfin, il semblerait qu'il soit séduit par son langage, par ses propos très très durs, et aussi son image un peu virile, macho comme ça, qui marcherait bien à propos de cet électorat. Et on voit là aussi sans doute le fait qu'ils ne sont que cet électorat des minorités n'est pas forcément séduit par le langage des progressistes qui sont des diplômés blancs sur les campus sur leurs propres questions raciales.
C'est-à-dire l'aile gauche
du Parti démocrate
qui a dû se résoudre sans grand enthousiasme à soutenir Joe Biden qui
n'était
pas du tout leur
discours
leur candidat.
Un peu trop pointu sur les questions raciales ne plaît pas aux minorités parce que c'est un peu de l'appropriation si vous voulez.
Fred Davis, on retourne à New York vous rejoindre une dernière fois. Est-ce que la multiplication des litiges, on voit qu'il y a déjà des procès anticipés enclenchée pour contester à l'avance la manière dont les résultats seront dépouillés, la manière dont le vote a été organisé dans certains bureaux, la manière dont le vote par correspondance sera décrypté. Qui va arbitrer ces litiges ?
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune structure nationale, dans le sens que les élections sont gérées par les États et même par les autorités locales. Donc, il n'y a pas une grande bataille, il y a des centaines de batailles dans chaque État. On parlait tout à l'heure de Floride, où il y a un premier mouvement de donner le vote aux inculpés et un deuxième mouvement de les empêcher. Ça se voit dans chaque État d'une manière différente. Je dirais la chose suivante. En 2000, vous rappelez qu'il y a eu un litige qui finalement a été décidé par la Cour suprême, qui, dans une certaine manière, a donné l'élection à Bush. Et bon, moi, je suis avocat. À mon avis, c'était une défaite pour les avocats, pour Gore. Cette fois-ci, Biden est extrêmement bien organisé. Il a toute une armée d'avocats, je connais certains. Ils sont extrêmement bien organisés. Ils ont des gens dans chaque État, presque chaque ville. Il y a des litiges maintenant concernant l'accès au vote, l'accès au courrier, etc. Et s'il y a des bêtises pendant la journée mardi soir, comme en 2000, on va voir. Mais le problème, c'est que même la Cour suprême n'a pas, une juridiction n'a pas le pouvoir de décider le tout. Il n'y a pas de parce que c'est pas géré par l'État fédéral, c'est géré par les États.
Un dernier point néanmoins, Fred, on se souvient que Donald Trump, en se réjouissant de son intronisation, a dit « Ah ben c'est génial parce qu'une fois que Amy Coney Barrett sera installée à la Cour suprême, eh bien on aura 6 juges sur 9 qui nous seront favorables. » Et donc, bien évidemment, quand tous les discussions, les remises en cause des résultats remonteront jusqu'à la Cour suprême, eh bien, grâce à cette majorité de conservateurs, on pourra garder la Maison-Blanche. Il l'a dit mot par mot.
Oui, il dit ça. Il faut rappeler que lui, il dit les choses pour avoir une certaine frappe, dans le sens qu'il dit des bêtises, parce que pour lui, la mauvaise nouvelle n'existe pas. Il veut dire des choses pour être lu. Ce que va faire la Cour suprême, je m'inquiète. Kavanaugh, par exemple, a écrit un avis que je trouve effrayant. Mais cela dit, ils auront quand même un pouvoir limité. Ils ne peuvent pas dire que, bon, on voit que Biden a gagné l'État X et Y, on annule, ils ne peuvent pas.
Donc, merci beaucoup.
En 2000, c'était curieux.
Merci Fred Davis pour cet éclairage depuis New York. Laurence Nardon, on arrive à la conclusion provisoire de cette discussion. En quelques mots, une campagne très violente. Est-ce qu'on peut craindre que, quels que soient les résultats, quelle que soit la durée d'attente pour obtenir des résultats définitifs, on les aura pas nécessairement pour nous, le 4, le mercredi matin, ça peut attendre plusieurs jours. Est-ce qu'une moitié de l'Amérique, quel que soit le résultat, ne croira jamais que l'autre moitié a gagné ?
Je pense qu'il y a un certain nombre d'Américains qui sont effectivement dans une autre réalité aujourd'hui. C'est pour ça que des résultats très larges seront une bonne nouvelle, parce que ce sera moins facile pour l'autre partie de l'électorat de contester les résultats. Si je peux dire encore
Allez-y.
Un mot, c'est que la grande participation des électeurs est quand même un bon signe pour la démocratie américaine.
Eh bien, restons sur cette note optimiste. Merci Laurence Lardon. On suit votre podcast Trump 2020 sur le site de Slate.fr et vous avez publié aux éditions Taillandier les États-Unis de Trump en 100 questions. Merci bien évidemment à Frederick Davis. Merci à Pierre-André Chiapori, qui est professeur d'économie à Columbia. Merci à Olivier Richomme. Vous avez participé à l'ouvrage dirigé par Laurie Kenton sur le rêve américain, l'épreuve de Trump. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Nasser Moussaoui et Somaya Dabesh. Hugo Boursier, comme chaque semaine, a préparé cette émission. Et voici, bien sûr, Hervé Gardette. Très bon week-end. et à samedi prochain.